Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous écoutez Les Nouvelles Ondes, la nouvelle émission d'actualité politique enregistrée à Sciences Po en partenariat avec le journal des étudiants La Péniche et la radio aragoise PFM. Aujourd'hui pour m'accompagner, Sarah Després, bonjour.
Bonjour.
Et Marianne Segrétin à la technique. Bonjour Marianne.
Bonjour.
À chaque rendez-vous, vous le savez, nous décidons de nous concentrer sur un enjeu d'actualité et aujourd'hui pas n'importe lequel, car c'est sans doute l'un des enjeux du 21e siècle. Définie par la CNIL comme le grand mythe de notre temps, l'intelligence artificielle fascine autant qu'elle inquiète. Mais depuis quand ? Il faut remonter dans les années 1950 pour comprendre. À l'époque, c'est Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, qui commence à se pencher sur la machine intelligente. Alan Turing, celui qui aida les renseignements britanniques et les polonais pendant la Seconde Guerre mondiale en mettant au point la bombe de Turing, une machine capable de décrypter les codes transmis entre les nazis. Une histoire décrite dans le récent film Imitation Game. Autre exemple, en 1997, quand le programme informatique Deep Blue bat le champion du monde russe Garry Kasparov aux échecs. Depuis, avec l'âge d'or d'Internet et des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle est devenue un objet de recherche convoité dans tous les domaines. Médecine, commerce, défense, éducation, prestations juridiques, mobilité, avec la voiture autonome bien sûr. Aujourd'hui, la Convention de Montréal et ses 10 principes, qui ont été présentés début décembre 2018, permettent de poser une première pierre à l'édifice de l'intelligence artificielle éthique et responsable. Cela marque l'aboutissement d'un travail intense, qui n'est en fait que le commencement d'une longue réflexion sociale et politique amorcée. Mais lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il vraiment ? Quels seront les impacts sur notre quotidien de demain ? Peut-on concilier le progrès technologique et l'éthique responsable ? Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Pour faire le point et on l'espère devenir plus intelligent, nous avons le plaisir de recevoir Maître Gérard Haas, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Bonjour Maître.
Bonjour.
Pour compléter son analyse, nous accueillons un spécialiste de ces questions, rédacteur en chef du service propriété intellectuelle droit du numérique chez Dalloz. Il est également responsable du diplôme d'université 2.0 de la faculté de Reims. Stéphane Prévost, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera partagée en deux parties avec notre traditionnelle pause engagée. Et aujourd'hui, nous recevons Amric Trudel, président de l'association 42 Intelligence Artificielle.
Bonjour.
Bonjour Amric. Mais sans plus tarder, commençons cette première partie avec une question qui peut sembler bête, mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on entend beaucoup de choses. Alors moi, j'ai envie de vous demander, quand on parle d'intelligence, comment est-ce que vous la définissez ?
En fait, ce que vous appelez intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est simplement de l'informatique algorithmique. On n'est pas vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle tel qu'on pourrait le voir dans les films de science-fiction, dans Black Mirror, etc. Aujourd'hui, en fait, on a un accompagnement avec des outils qui permettent de prendre des décisions et de donner des solutions qui partent du passé et qui vous proposent, en fait, un travail, j'allais dire, informatique. C'est un petit peu ça. Alors, effectivement, il y a de temps en temps des exploits qui sont réalisés. Mais j'allais dire, ces exploits, quand ils sont réalisés, c'est simplement, en fait, la machine qui produit ce pour quoi elle avait été programmée. Et au fond, elle a des capacités de calcul. Il n'y a rien d'exceptionnel quand on bat Kasparov, quand on bat au jeu de Go ou demain au poker, etc. Il n'y a rien d'exceptionnel. Elle est programmée pour ça. Elle n'aura aucune émotion. Et on sait très bien que, par exemple, un enfant, vous lui montrez trois images de chiens, même s'il a moins de un an et demi, il dira c'est un wawa, c'est un chien, alors qu'une machine, il faudra plus de 150 millions d'images pour arriver à dire ce qu'est un chien. Voilà. Alors quand on parle d'intelligence, si c'est ce fait qui permet à un moment donné, à partir d'une logique, d'avoir des postulats qui permettent d'aboutir à une raison, telle que le voyait Aristote, etc., on n'est pas tout à fait dans cela.
Stéphane Prévost, en une phrase, votre définition ?
Moi, je ne voulais pas la définir parce que la définition Gérard est excellente.
Elle vous convient ?
Simplement, je vais vous l'illustrer dans un domaine qu'on connaît bien, Gérard et moi, qui est le droit, et tout le monde parle de justice prédictive. Si on prend la justice prédictive, c'est simplement l'analyse des données et de la masse de données qui est en train d'arriver avec l'open data, auquel on applique de la probabilité qu'on a tous fait au lycée quand nous étions plus jeunes avec Gérard. Donc c'est simplement une image donnée. Donc l'intelligence artificielle ici n'est jamais qu'un outil de calcul. On est très loin de Minority Report avec trois personnes plongées dans un bain de lait qui vont vous donner ce qui va se passer. Donc non, c'est une analyse du passé à un instant donné.
que Turing, pour lui, dans sa définition, c'était à partir du moment où vous posez des questions à une machine et que vous ne savez pas si c'est une machine ou si c'est un humain qui répond, on est face à quelque chose qui dépasse des calculs simples et on serait vers une certaine intelligence qui pourrait être artificielle. C'est dans ce sens-là que ça a été vu.
Alors, vous faites bien de parler de justice prédictive, on va en vraiment en parler dans notre deuxième partie qui sera consacrée au droit.
Dans le domaine de la santé, Maître Haas, vous l'évoquiez, on a eu il y a quelques jours l'inauguration à Montréal de l'école de l'intelligence artificielle qui associe le centre hospitalier universitaire, qui donc va associer une formation de médecine et en même temps des nouvelles technologies concernant donc l'intelligence artificielle. On a un petit peu une inquiétude qui peut émerger donc entre l'émergence d'une la naissance d'une médecine de pointe qui va utiliser la technologie de l'intelligence artificielle et donc qui va être réservée à une frange aisée de la population et une autre partie de la population qui va être moins dotée en capital économique et culturel qui, elle, se verra toujours reléguée aux soins de la médecine traditionnelle.
Alors c'est j'allais dire la question d'après, parce que là, en matière de santé, on se rend compte que dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle, c'est un bienfait. C'est quelque chose d'assez remarquable. Il y a des secteurs, par exemple celui de la radiologie, on sait que la question aujourd'hui est posée de savoir si on a besoin de quelqu'un qui va être formé pendant 10 ans pour arriver à des résultats qui sont que de 95%, alors que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle analyse des radios qui ont été faites, a à peu près 98% de fiabilité. Donc ça pose de vrais problèmes. Il y a dans plein de domaines, ça devrait permettre d'améliorer en fait le travail des médecins. Jusqu'à présent, dans le domaine de la santé en France, je ne sais pas pour le Canada, mais ça ne doit être pas très loin non plus, c'est qu'en France, le diagnostic ne peut être donné que par un médecin. La machine, elle est là pour accompagner et aider le médecin, et c'est le médecin qui fait le diagnostic. Il est possible que demain, la machine puisse anticiper et présenter un diagnostic. Aux États-Unis, il y a dans le domaine de l'ophtalmologie, on peut aujourd'hui, sans passer par un ophtalmo, avoir des diagnostics qui sont édités et qui sont extrêmement fiables. C'est même remboursé par la FDA. Donc il faut... L'intelligence artificielle, c'est un fait. Ça arrive de plus en plus. Elle doit, j'allais dire, être... La valeur ajoutée humaine doit toujours être là. Et tant qu'elle sera là, ce n'est pas un danger. À partir du moment où l'intelligence artificielle peut dépasser l'humain. Et là, c'est en fait tous ces problèmes d'intelligence qui pour nous, sont angoissants, anxiogènes, etc. Alors là, il y aura de vrais problèmes. L'homme, s'il est absorbé par la machine, on n'en a plus besoin. Et là, on pourra parler des autres conséquences de l'intelligence. C'est la perte d'un certain nombre d'emplois, la création de ces emplois qui n'est pas la même, et avoir une société à deux vitesses, où peut-être on n'aura peut-être plus besoin de travailler. Enfin, puisqu'une intelligence artificielle travaillera pour nous.
Pour revenir sur l'idée de société à deux vitesses, ça dépend sous quel angle on va se placer. Imaginons justement que dans des pays dépourvus de médecins et dépourvus d'humains capables de faire des diagnostics rapidement, il y a un médecin pour 800 ou 1000 personnes, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en médecine, mais déjà, l'intelligence artificielle peut assister, peut donner, enfin rendre service à ce médecin qui sera sur place ou qui sera peut-être même à distance pour fournir un diagnostic et ensuite prescrire la bonne médication. Donc en fait, c'est juste une question de vision et d'angle sur lequel on va analyser l'apport de l'intelligence artificielle. Ça peut combler, dans certains pays, j'imagine, ce manque.
Ouais, alors,
et même en France, ouais. Dans les déserts médicaux.
En tout cas, ça permet de faire de grandes avancées. Scientifiquement, il y a un apport indéniable aujourd'hui et on ne peut pas faire de la recherche sans avoir des solutions d'intelligence artificielle. Dans le domaine du droit, aujourd'hui, on est avec les contrats intelligents, on a même dans les manières de faire de la recherche, on utilise aussi de l'intelligence artificielle, donc c'est partout.
Effectivement, mais d'un point de vue général, en essayant d'avoir une vision un peu large, plus que médecine et droit, vous venez de le dire, l'intelligence artificielle, ça va sans doute entraîner la suppression d'emplois, tout en favorisant l'apparition de nouvelles pratiques. Mais est-ce que vous pensez que la création d'emplois peut suffisamment compenser le déclin des postes qu'on va qualifier de postes mécaniques et qui vont donc être récupérés par une certaine forme d'IA, d'intelligence artificielle ? À court terme, à long terme d'ailleurs.
Moi je ferais finalement les mêmes remarques que quand on a fait disparaître les personnes qui tractaient avec des chevaux pour les transports en commun. Enfin, chaque révolution en effet va faire perdre des postes à ceux qui avaient peut-être moins de qualifications et on apportera à ceux qui sont qualifiés. Charge en effet cette fois-ci à la société de proposer des formations qui entraîneront
Au gouvernement.
Aux universités. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Gérard, puisqu'on forme des juristes à l'intelligence artificielle, mais de manière plus générale au numérique, parce qu'on sait qu'il y a 56 000 postes qui vont arriver. On ne forme pas des informaticiens, on forme des juristes qui seront sensibilisés à ce qu'est un code, à ce qu'est un algorithme, et à la manière dont nos deux langages, que ce soit le langage juridique et le langage des informaticiens, vont correspondre. Et ça, ça s'applique à toutes les branches de la société. Quand on sait... Enfin, nous, moi, j'ai appris à coder en COBOL et Super COBOL. Ça va faire très ancien, mais ça va parler vraiment aux générations qui aujourd'hui ont dépassé la quarantaine. Mais au moins, je sais ce qu'est un code. Et à partir d'une vingtaine de lignes, on arrivait à faire une fonction.
C'est intéressant, Amric Trudel, vous êtes étudiant à l'école 42 qui a été fondée par Xavier Niel. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être préparé à tous ces enjeux?
C'est compliqué parce que c'est des enjeux beaucoup qui demandent une législation, une réglementation, et le défi, c'est que les réglementations, c'est un processus qui est beaucoup plus lent que le développement, les nouvelles trouvailles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Chaque semaine, on voit des nouveaux papiers de recherche qui sortent avec des nouveaux algorithmes, des nouvelles façons de faire. Ça évolue extrêmement vite. Ça fait peut-être, peut-être 10 ans que vraiment l'intelligence, même pas, que l'intelligence artificielle prend son envol. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Ça va être probablement assez compliqué. Les ajustements vont devoir se faire assez vite. Et c'est sûr qu'il faut s'attendre à une automatisation de beaucoup de tâches qu'on pourrait dire cognitives, mais qui sont très répétitives. Parce que dès que c'est répétitif, c'est prédictible et c'est très automatisable. Après, on peut le voir de plusieurs façons différentes. On pourrait dire, par exemple, que si c'est vraiment un job qui est très rébarbatif, c'est peut-être pas plus mal qu'on l'ait automatisé. Mais ensuite, ceux qui font ça, s'ils ne se voient pas faire autre chose...
Quel emploi proposer à ces gens-là?
Oui, exactement. Quel emploi leur proposer? C'est sûr que ça demande quelque chose de... c'est une tâche cognitive plus complexe. Donc, ça dépend si ces gens-là, s'ils ont envie de faire d'autres tâches plus complexes. Donc, ça va... Oui, c'est sûr que ça va poser des questions de société. Hein.
Si vous permettez, je trouve que la remarque d'Amric est très intéressante, puisqu'il a face à lui, justement, la personne qui a conçu, qui a anticipé le retard de la règle de droit qu'on connaît tous normalement. Et c'est bien grâce à Maître Haas qu'on a créé et qu'on a mis en place des procès fictifs. Mais je vais le laisser en parler parce qu'il n'y a pas mieux que lui. C'était son idée avec François.
On va revenir sur le procès dans la deuxième partie. Mais effectivement, c'est intéressant, et puis d'avoir votre regard en tant qu'étudiant de l'école 42. Mais en tout cas, sur la question d'emploi, on voit bien que ça va dépendre de plein de facteurs, et aussi des responsables politiques et des responsables de l'enseignement supérieur.
Oui, mais ça... Mais ça pose vraiment un vrai problème, c'est que, effectivement, dès lors que c'est répétitif, dès lors que c'est automatisable, on peut remplacer un individu. Mais dans les sociétés, chaque fois qu'il y a eu des passages, il y avait quand même la question de la valeur du travail qui était là. Aujourd'hui, on se rend compte que les métiers se transforment en compétences. Ça, c'est aussi un phénomène. Et que derrière la compétence, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas trouver quelle était la valeur. Et c'est ce problème qui va poser... Parce que tous ceux qui n'auront pas trouvé une réponse pour expliquer qu'est-ce qu'est la valeur dans mon travail seront remplacés par de l'intelligence artificielle. Donc il faut... Là-dessus, c'est à retravailler. C'est pour ça que la question de la proximité, de l'empathie, des valeurs humaines sont essentielles pour qu'on puisse... aller au-delà de l'IA. Je pense que c'est vraiment important. Et rappelons-nous que l'IA peut lire sur nos lèvres. Donc, il faut vraiment créer de la valeur. Et ça, on n'est pas formé pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emplois qui risquent de disparaître. Parce que, justement, on n'a pas fait ce travail de savoir qu'est-ce qui, dans un travail, au-delà de la compétence, va donner une vraie valeur qui peut, elle, être humanisée.
Alors, des valeurs, on va y revenir, justement, c'est intéressant, qui sont d'ailleurs, je crois, propres aux avocats, mais pas que. Mais comment peut-on vraiment concilier éthique et intelligence artificielle? On a vu qu'il y a eu la convention donc, de Montréal, qui émet des principes de responsabilité, d'utilisation, on va dire raisonnée, mais ce ne sont que des principes, et ce ne sont pas des actes. Et tant qu'il n'y a pas de limite, ça va peut-être poser problème. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce qu'on voit que la Chine... Par exemple, vient de mettre en place un système de crédit social où les gens sont notés par le gouvernement selon les actes qu'ils font. Et ça, ensuite, ça leur permet de ne plus pouvoir à l'aéroport ou d'être mieux soignés. Enfin, ça pose des vraies questions.
On connaît clairement très bien ce dossier avec Maître Haas et avec la revue d'Allos IPIT, parce qu'on a de toute façon rédigé des éditos. Mais vous pensez aujourd'hui que ça n'arrive qu'en Chine. Mais est-ce que vous pensez vous-même que vous ne commencez pas déjà à être noté en réalité? Quand vous postez un message sur un réseau social qui s'appelle, on va pas faire de publicité, mais LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Quand vous postez un message sur Facebook et qu'ensuite vous allez aller voir un employeur, est-ce qu'un directement vous pensez pas qu'il est déjà en train de vous évaluer, de vous noter ? Il faut savoir aussi qu'il y a des établissements bancaires qui vont regarder, par exemple sur LinkedIn, mon réseau d'amis, mon réseau de correspondants, et ils vont regarder, passez-moi l'expression, si en réalité, mes amis tels que Maître As, est-ce qu'on est bankable ? Ils vont en tirer des conséquences. Quelles sont-elles dans le monde réel ? Ils vont regarder tout simplement à partir du fait que je sois bankable ou pas. Ils vont regarder s'ils augmentent ma ligne de crédit ou s'ils améliorent mon taux d'intérêt. Donc des conséquences, vous en aurez vous quand vous allez passer des entretiens d'embauche. Et grâce à cette émission, vous allez avoir une très bonne note, indirectement. Elle ne va pas être formalisée comme ça, mais elle va exister pour vous. Et donc tout le monde en fait fait l'objet d'une notation. Quand vous prenez un taxi, quand vous achetez un véhicule, vous devez noter au maximum le vendeur, parce que cette expérience, moi, je l'ai vécue, où le vendeur me demande de lui mettre la note maximum, sinon il n'a pas sa prime. Alors qu'il a vendu l'objet, le contrat est passé pour des juristes. Oui. Le contrat était passé, le véhicule vendu, nos consentements étaient là, il était payé. Mais je vais laisser Gérard continuer sur le dossier qu'il connaît aussi bien.
Juste avant de vous passer la parole, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez de dire ?
De la notation ? Ah, mais nous, justement, moi, je pense que là, cette fois-ci, et pour avoir exposé à Biarritz le rôle de l'avocat qui cherche sa valeur, c'est aux avocats, c'est aux juristes français, cette fois-ci, parce qu'on est quand même les fondateurs des droits de de continuer. Moi, je milite dans mon intervention pour qu'il y ait des droits de l'homme digitaux, pour qu'on y pense. Et la France, pour ça, qui a toujours été précurseur, doit s'emparer de cette question. Et là, Maître As fera bien mieux que moi encore.
Juste sur la question de l'éthique, parce que ça, c'est un enjeu qui est vraiment très intéressant. Quand on voit, en fait, l'histoire des règles, d'abord, il y a l'éthique, qui est, en fait, le résultat de la morale. Et ensuite, c'est traduit dans des règles pour que la société puisse vivre ensemble, pour que les gens, les citoyens puissent vivre ensemble. Ça, c'est très intéressant. Quand on est dans le cadre d'une intelligence artificielle, on suppose que le concepteur de l'IA a une éthique, mais en fait, il met son éthique. Ce n'est pas une éthique qui a été d'une société, d'un groupe, c'est l'éthique d'un seul. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu derrière ça. Et donc là, vous comprenez que finalement, l'idée aujourd'hui d'avoir de l'éthique by design, c'est-à-dire que dès le départ, il faudra avoir un ensemble de règles communes qui soit partagé par tous pour ne pas dépendre de la décision d'un développeur et qui en fait nous influence et décide pour nous, C'est un vrai enjeu. Alors, c'est un vrai problème, parce que juridiquement, quand on veut savoir quel est le secret de la boîte noire, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans la base à la conception, quand on n'est pas dans l'open source, en fait, vous n'y avez pas droit, vous n'y avez pas accès, parce que c'est protégé par le secret des affaires. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, et tant qu'on n'aura pas résolu cette question de l'éthique by design, on a un problème. Alors, maintenant, au-delà de ça, eh bien, effectivement, il y a toute une série d'enjeux pour vérifier ensuite quelles sont les garanties que l'on peut apporter aux utilisateurs et quelles sont les responsabilités qui peuvent être engagées. Voilà pour parler de ce problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'éthique, j'allais dire, on a un autre problème aussi qui, philosophiquement, vous allez comprendre, est une aberration. Un mathématicien, c'est-à-dire celui qui écrit l'algorithme ou celui qui va mettre en place des algorithmes, il raisonne d'une manière binaire entre des 0 et des 1. Il raisonne entre du vrai et du faux. Alors que quand on est plutôt littéraire, c'est-à-dire dans le monde du droit, on va raisonner entre le bien et le mal. Comment voulez-vous que le vrai et le faux marchent avec le bien et le mal ? Il y a du bien qui peut être vrai ou faux, il y a du bien qui est mal et du mal qui est bien. Vous comprenez ? Donc il y a toute une série d'enjeux qui sont différents et qui sont contradictoires. Et c'est pour ça que derrière ça, le problème de l'éthique, by design, est un enjeu fondamental.
Et très rapidement, équation, enjeu éthique, nature humaine, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir ou pas ?
C'est pas que la nature humaine, en fait on est sur un phénomène de langage, comme j'évoquais tout à l'heure. On a le langage des juristes d'un côté et le langage des informaticiens. Et il y a pour ça un ouvrage qui en parle très bien, c'est l'ouvrage d'Antoine Garapon, qui est magistrat, qui revient sur qui explique toutes ces données. Donc je vous encourage à lire
Justice
cet ouvrage.
Justice digitale.
Justice digitale. Et ce qui se passe, c'est qu'est-ce que nous, juristes, alors quand vous êtes étudiant en droit, oui, quand vous prenez un arrêt de la Cour de cassation, tout de suite, vous n'allez pas le comprendre tant qu'on ne vous a pas donné les clés du code, clairement, parce qu'il y a une forme de code. Mais c'est la même chose pour les codes informatiques et pour la lecture informatique. Donc au-delà de la nuance qu'évoquait Jarras, justement, entre les littéraires quelque part et le 0 et le 1, mais ça va également au-delà. C'est moi, si on me donne... Enfin, si on nous donne à nous-mêmes l'algorithme, pour autant, est-ce qu'on va le comprendre? Alors qu'un arrêt de droit, on arrivera toujours à le comprendre. Il y a toujours du français dedans, même si c'est parfois avec des tournures anciennes. Au bout d'un certain temps, on y arrivera. Mais vous avez des subtilités, Aymeric, mais qui vont complètement nous échapper au bout d'un certain niveau de développement. Et c'est clairement une des questions qu'on se pose pour plein de choses qui vont se poser pour nous. Enfin, j'en parle pour l'attribution des places aussi dans les universités. En effet, il faut qu'on ait accès au code, d'accord, mais une fois qu'on a le code sous les yeux, qu'est-ce qu'on en comprend réellement?
C'est la fin de cette première partie de l'émission et on passe tout de suite maintenant à la pause engagée. Nouvelles ondes, c'est le début de la pause engagée et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Truidel qui est président de l'association 42 Intelligence Artificielle et étudiant donc à l'école 42. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Alors première question, qu'est-ce qui vous passionne dans l'intelligence artificielle au point d'être président d'une association dans l'école de codage?
Moi, à la base je m'intéressais beaucoup à la cognition humaine et... Après, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle dans la mesure où, à un moment donné, on pourrait arriver à reproduire ces comportements que l'humain peut avoir qui demandent de l'intelligence. C'est aussi ce qui m'intéresserait à terme, ce serait de voir comment le fait de reproduire ces comportements permettrait de comprendre même le fonctionnement du cerveau et de la cognition humaine.
Alors, première question également, quels sont les projets concrets, les réalisations que vous avez faites là cette année?
Donc, cette année, notre plus belle réalisation, je dirais, c'est notre équipe qui a construit une voiture autonome.
À l'Iron Car, c'est
Iron Car, exactement.
Qui est un championnat de course de voitures autonomes, c'est ça?
C'est ça. Donc, ça a commencé au début de cette année, en janvier. Et voilà, notre équipe 42 a gagné la première place il y a quelques semaines à peine. Donc, on est vraiment très contents parce que c'est vraiment un accomplissement qui est remarquable compte tenu du fait qu'ils ont tous les participants n'avaient jamais fait de l'intelligence artificielle avant, donc ils ont vraiment tout appris sur le tas comme des vrais étudiants de 42.
Très bien, félicitations. Et comment vous faites pour sensibiliser? Bon, j'imagine qu'à l'école 42 c'est quand même des sujets on va dire échangés entre étudiants vu que c'est quelque chose qui touche quand même au programme informatique, mais est-ce que vous sentez vous que des étudiants qui sont intéressés par ces enjeux d'intelligence artificielle qui viennent vous voir, est-ce que vous recrutez de nouveaux membres?
On recrute constamment, on en a beaucoup qui viennent nous voir. Donc souvent, on organise des conférences autour de l'intelligence artificielle pour intéresser les gens. Puis, on a des gens qui veulent monter des projets, comme ça a été le cas avec Aaron Carr, ou d'autres fois, nous, on organise des ateliers où les gens peuvent vraiment construire leurs compétences sur le sujet et là, ils mettent la main. Donc, c'est vraiment le plus gros... ce qui est plus... ce qui représente le plus un défi pour nous, c'est qu'ils sentent qu'ils aient accès à ce domaine, parce que pour certains, ça semble très, très compliqué et très difficile d'accès. Donc, c'est surtout de montrer que c'est faisable, en fait, de faire de l'IA, si on s'intéresse à ça.
Effectivement. En tant que développeur, comment prenez-vous en compte la dimension éthique du projet et éthique de l'intelligence artificielle?
En tant que développeur, le développeur, en général, il décide d'une espèce de truc qu'il voudrait essayer de programmer et il va vraiment... Il va être passionné du fait de juste le faire. Donc, c'est sûr que développeur, en général, c'est toujours... comment dire? Le développeur a toujours conscience de l'impact de de ce qu'il va faire, mais jusqu'à une certaine mesure. Donc, c'est toujours important qu'il y ait le dialogue avec des interlocuteurs, comme par exemple les deux autres invités qu'on a ici aujourd'hui, pour vraiment nous ouvrir un peu l'esprit sur... qu'est-ce qui va se passer vraiment, entre les mains de qui ça va tomber, cet objet-là, cet objet informatique. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut faire attention, je crois.
Très bien, c'est la fin de cette pause engagée, mais on passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission.
Alors aujourd'hui, on a deux sphères professionnelles qui sont touchées de plein fouet par l'IA, qui sont la médecine et le droit. Selon vous, comment on pourrait trouver une articulation entre des tâches qui peuvent être réalisées par un être humain et par une machine, puisqu'on a tous en tête l'idée de la machine et, qui est remplacée par l'être humain?
Sur le droit.
Non, mais j'entends pour le droit, mais avant d'aller sur le droit, peut-être, en réalité, un des métiers, une des populations les plus touchées, c'est celle des banquiers aujourd'hui. Encore plus que les juristes et peut-être encore plus que la médecine. Ceux qui voient partir, je vais vous expliquer justement, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui ont été mises en place, et notamment en Grande-Bretagne, il y en a une depuis 2016, une qui s'appelle Luvo. Et quand vous allez solliciter votre banquier pour un placement, à partir d'une certaine somme, enfin en deçà d'une certaine somme, c'est l'intelligence artificielle qui commence à vous répondre. Et au-delà d'un certain millier, de quelques milliers d'euros, seulement vous avez l'intervention humaine. Donc attention, il y a les métiers les plus touchés. Les juristes s'interrogent sur ce qui est en train d'arriver, mais ils ne sont pas encore complètement impactés par l'intelligence artificielle. On l'a vu avec des contrats robots, mais en réalité sont de faux robots contrats, puisque la programmation est faite en direct avec des échanges avec les humains, avec les conditions générales des contrats qui sont posées, les interlocuteurs. Donc tout ça, en réalité, c'est de l'application de logiciels. En revanche, dans la banque, là, c'est un vrai secteur qui est impacté. Donc, pardon, je vais reprendre votre question maintenant sur le droit. Dites-moi, enfin, rappelez-la moi, pardon.
Donc, finalement, le droit, comment peut-il être l'exemple dans le professionnel d'une articulation entre l'homme et la machine pour la réalisation d'une tâche ?
J'allais dire que le droit, depuis toujours, en fait, il a toujours besoin de s'exprimer via le livre, via le stylo, via la machine. Il a toujours eu une interface. Pour nous, dans nos cabinets d'avocats, d'abord, depuis des années, nous sommes des legal tech. C'est-à-dire que nos collaborateurs travaillent sur des ordinateurs, ils saisissent des textes, ils font des recherches. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tout cela est facilité. Donc il est facilité parce que, j'allais dire, l'apprentissage Google a permis aujourd'hui d'être très exigeant sur le rendu de ce que nous proposaient en fait quelques éditeurs. Stéphane, excuse-moi, mais les éditeurs nous proposaient en fait des modes de recherche. Aujourd'hui, on veut du dashboard, on veut du tableau, on veut de l'expert.
On y travaille.
Tout le monde y travaille, effectivement. Donc, effectivement, le droit aujourd'hui, c'est une vraie question que doit se poser un juriste. Si jamais c'est pour faire des recherches sur la jurisprudence ou sur des textes de loi, finalement, est-ce qu'on a besoin de lui ? Non, on n'a pas besoin de lui. C'est pour ça que je pense que le juriste, pour moi, c'est un data scientist.
Alors que feront les stagiaires ?
Alors justement, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, les juristes sont des data scientists. Tout le monde déclare que le juriste en tant que tel, c'est quelqu'un qui est très compétent. La compétence d'un juriste n'est jamais remise en cause. Et quand on est un juriste, on peut regarder la grande qualité du juriste, c'est quelqu'un qui est un super analyste. Donc, pour moi, dès lors qu'il utilise la data, il est data scientist. Ce que l'on va rechercher derrière ça, ce sont ceux qui vont pouvoir, à travers les analyses, faire des synthèses et aller au-delà, faire du prédictif et du prescriptif. Et c'est ça la valeur. Et c'est ce qu'il faut apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas suffisamment à nos étudiants à utiliser en fait tous ces outils pour être encore plus performants. Voilà. Donc ils l'utilisent parce que de par eux-mêmes. Mais le vrai problème que l'on a, alors c'est une question de formation, c'est l'appropriation des connaissances. L'appropriation des connaissances. Et ça va tout à fait dans un autre domaine où il y a une confusion qui est généralisée en matière de justice prédictive. En fait, on est en train de nous dire, regardez l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire. En fait, elle peut le faire dans deux domaines, qui est aujourd'hui, c'est le droit social, où en fait sur les licenciements on pourrait arriver à avoir un certain base d'indemnité, et puis sur les pensions alimentaires. Là on a en fait quelque chose qui travaille. Mais en fait on est en train, et c'est ça pour moi qui est quand même relativement dangereux, en train de normaliser en fait les décisions. Parce que ce que l'on fait, c'est à partir de décisions passées, on est en train de dire ce qu'ils devraient faire. Et dans le droit, il y a de l'imagination, il y a de l'innovation. Et là, en fait, ce talent que l'on avait, nous, avocats, à plaider devant les juges et les juges mettre dans leurs décisions, aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on nous propose, puisqu'on est dans une sorte de justice standard. T'appuies sur un bouton et ça sort immédiatement.
Alors c'est intéressant, l'école de droit de Sciences Po et sa clinique ont publié il y a quelques jours un livre blanc relatif aux enjeux éthiques de la justice prédictive, qui est disponible d'ailleurs gratuitement en ligne. Mais la justice prédictive, d'abord essayons de définir un petit peu. Bruno Dondero, qui est professeur de droit, explique que la justice prédictive, selon lui, c'est tenter de prédire avec le moins d'incertitude possible ce que sera la réponse de la juridiction X quand elle est confrontée au cas Y. Alors d'après vous, dans quelle mesure la justice prédictive peut-elle influer sur l'accès au procès et je dirais même par conséquent accroître aussi les modes alternatifs de règlement des conflits.
C'est clairement l'objectif en réalité de la justice prédictive, c'est que votre avocat, enfin là je ne veux pas m'improviser avocat, mais il va vous dire tout simplement, regardez, dans tel contentieux de licenciement, vous pouvez obtenir 30 000 euros d'indemnité, on va les réclamer sans aller directement au contentieux. Donc on va avoir ce premier phénomène qui va arriver, qui va tenter de négocier avec son client. Mais comme on le soulignait tout à l'heure sur la justice prédictive, c'est une image à un instant, à un moment donné tout simplement. Puisque justement le contentieux va disparaître, il va se normaliser, comme l'indique très bien Maître Haas. En réalité, vous allez avoir un contentieux qui disparaît. Donc un facteur de votre probabilité qui, lui, s'efface et qui n'est plus juste au fur et à mesure. Et la limite, elle est là, dans cet exercice de justice prédictive qui, en fait, n'a rien de prédictif du tout. C'est une image donnée à partir de données qui, elles, sont celles du passé et pas du tout celles de l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les données de l'avenir disparaîtront puisqu'elles seront négociées. Le principe d'une transaction, c'est de ne pas apparaître, c'est de ne pas être mis sur la place publique en justice. Et avec la réforme de la justice qui arrive, là aussi, où le mode alternatif de règlement des conflits est privilégié, tous ces outils qui ne sont finalement, enfin le juge doit se les approprier et les avocats aussi, que comme des indicateurs, mais certainement pas comme des éléments de finaux de décision.
Donc vous nous dites que c'est plus comme ça. Vous nous dites que la justice prédictive n'est pas si prédictive que ça.
Mais non, c'est fait à partir de données du passé. En quoi on peut prédire ? On peut s'en servir pour imaginer le futur, mais en aucun cas c'est le futur. Enfin, selon moi.
Ce qui serait plutôt intéressant, c'est dans les textes de loi que l'on utilise en fait tous les algorithmes pour éviter d'avoir des mots tiroirs. Si vous voulez, dans plein de textes, on a des concepts mous, des notions folles, la durée nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, puisqu'on est imprécis, ça soumet cela à des interprétations. Alors après, de dire qu'à un moment donné, on considérait avant la 4G que la durée nécessaire c'était 24 heures et après la 4G c'était 12 heures, si jamais vous êtes avec une justice prédictive, vous allez vous baser sur ce qui était au moment où on était avec la 4G. Et pareil. Donc vous voyez, il y aura toujours des décalages. Et puis il y a plein d'erreurs. En fait, ce qu'on oublie aussi, c'est les biais. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, moi, je voudrais partir sur la voiture connectée. Dans le cadre du procès, un des arguments qui est en faveur de la voiture connectée, c'est le fait de dire, la voiture autonome, pardon, c'est de dire, regardez, les accidents sont humains. Les accidents sont humains. Et si jamais l'homme ne conduit plus, on va supprimer les accidents. Je dis aujourd'hui que demain, lorsque les voitures seront pilotés par de l'intelligence artificielle, les accidents seront dus à l'intelligence artificielle. Donc on part sur un truc faux pour donner une raison et on n'anticipe pas. Donc vous voyez, demain, tous les accidents seront des accidents qui seront dus à l'intelligence artificielle. Alors cela, il faut être prudent quand même, parce qu'il y a un rapport qui vient du Canada sur les automobiles autonomes, qui montre que la plupart, à part une voiture telle ça qui a eu un problème, la plupart des accidents qui ont été causés par des voitures autonomes, ce sont des conducteurs humains qui sont rentrés dans des voitures autonomes. Voilà, ça c'est bon. Mais demain, la généralisation, si toutes les voitures sont autonomes et pilotées par l'intelligence artificielle, forcément et évidemment, les accidents seront du fait de l'intelligence artificielle. Donc, ça c'est le premier point. C'est un point qu'il faut quand même soulever. Deuxièmement, il y a toute la question, j'allais dire que à partir du moment où on utilise l'intelligence artificielle, il y a une responsabilité qu'il faut voir, c'est celui qui fournit les connexions. Parce que ça, on n'en parle jamais. Mais si jamais j'ai un problème de connexion et que les données ne peuvent pas être échangées, ne peuvent pas être transmises, plus rien ne marche. Et puis ensuite, il y a un autre problème. Il y a des redéfinitions à faire. Qu'est-ce que c'est qu'un conducteur ? C'était une question que nous avions posée dans notre procès.
Oui, justement, parce que vous avez organisé donc le procès fictif de l'intelligence artificielle dans l'ancien palais de justice. C'était à l'occasion de la nuit du droit.
Alors, c'est en fait surtout grâce au talent aussi de Stéphane Prévost. Stéphane Prévost, c'est un éditeur qui est assez extraordinaire. Ordinaire et qui adore les innovations et qui adore tout ce qui est IT/IP. Et en fait, quand je suis allé le voir en lui disant est-ce qu'on pourrait pas organiser des procès fictifs, mais pour poser les vraies questions et voir comment aujourd'hui le droit peut s'en démêler, il a dit banco. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, et pour nous juristes, c'est que jusqu'à présent, le droit était toujours en retard et il devait être en retard. Il devait voir les phénomènes de société et ensuite, il arrivait et puis il proposait des solutions pour réguler tout ça. Bon, là, avec les nouvelles technologies, d'abord, on s'est rendu compte entre 1980 et 2000 que la question du vide juridique était une angoisse. Ensuite, on a eu avec l'arrivée du cloud et du big, la question de l'espace, la question du temps, la question de la vitesse. Et là, on se rend compte que l'on veut du droit. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et pourquoi le débat, il est d'abord juridique. C'est un vrai débat qui est posé aujourd'hui dans la société. Et nous devons aider les citoyens à se poser les vraies questions. Parce que c'est la société de demain qu'on est en train de bâtir.
Je suis complètement d'accord avec ce que dit Gérard. En fait, on s'est réunis, on a réfléchi, on fait un scénario. La confection du scénario nous prend en réalité une année à toute l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des ingénieurs
qui viennent de mines.
On fait venir toutes les professions qui vont nous éclairer avant d'élaborer le scénario. On a une idée de départ, et ça c'est quand même Maître As qui a l'initiative, et ensuite on l'affine au fur et à mesure. Et quand on parle de ce procès de l'intelligence artificielle, de la voiture autonome, en réalité, on a d'abord été voir ce qu'était une voiture autonome. On s'est rendu à l'école des mines et on en a vu une concrètement. Ce à quoi ça correspondait aujourd'hui, quel était l'état de l'art. Et une fois qu'on a ces données, on revient et on se pose les questions juridiques. Et cela nous prend quand même beaucoup de temps aux uns et aux autres. Enfin après, en effet, et enfin la difficulté qu'on avait eue, si on vient à quelques instants dans le scénario, c'était de se dire, parce que Maître As, comme d'habitude, va très très loin, il n'y aura que des voitures connectées, mais c'était de se dire comment on fait rentrer l'humain dans la voiture autonome, sinon on fait un procès en responsabilité du fait des produits défectueux, enfin voilà, les règles juridiques qui existent aujourd'hui suffiront, ou devront être développées, mais en tout cas elles seront encadrées. La question qu'on s'est posée dans ce scénario, c'est de dire où peut intervenir l'humain. Donc on a imaginé un bouton qui est un bouton de signal d'urgence comme on pourrait le connaître dans le train, et à partir de là, un humain qu'on a appelé Célestin Vigie appuie, quand il voit arriver les voitures sur lui, il appuie, et là ça crée ce qu'on a appelé le carambolage du siècle. Et la question qui se posait, c'était de savoir, est-ce que l'humain, en appuyant, a déréglé l'ensemble du système de l'intelligence artificielle? Et donc la question juridique derrière, c'est est-ce qu'il est conducteur? Ou est-ce qu'il a une forme de conduite? C'est un petit peu comme ça qu'on l'a envisagé. Ou c'est simplement l'intelligence artificielle qui, elle, devait maîtriser tout le système et anticiper. Parce qu'imaginez un enfant qui appuie par inadvertance sur ce bouton, tout était possible. On peut aussi dire que le droit, qui lui aussi a toujours été dans l'imagination et dans l'anticipation, on avait imaginé que cette intelligence artificielle avait déjà la personnalité morale. Elle existait. Et ça, on a un exemple parfait qui est celui des sociétés. Les sociétés ont la personnalité morale. C'est une fiction qu'on a créée depuis bien longtemps. Donc on s'était inspiré de ça et on avait créé aussi, imaginé un fonds de garantie.
Oui, un patrimoine.
Un patrimoine, donc, qui dit en effet personnalité morale, dit patrimoine, dit fonds de garantie derrière.
Alors justement, vous parliez des redéfinitions un petit peu des responsabilités juridiques. Est-ce que pour vous, il y a certains avocats qui défendent l'idée qu'il faut accorder une personnalité juridique à l'intelligence artificielle? Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Ben pourquoi pas? Enfin, je veux dire que, en fait, la question de la personnalité, c'est un moyen pour pouvoir trouver, si vous voulez, une responsabilité, j'allais dire simple, mais qui dit personnalité dit aussi patrimoine. Donc s'il y a une personnalité juridique pour l'intelligence artificielle, il faut qu'il ait un patrimoine, parce que sinon, comment il va y répondre? Et ensuite, pourquoi pas, ça va faciliter, puisque la responsabilité du concepteur de la solution, du fabricant, enfin, est compliquée, hein, et on n'a pas les moyens de le mettre, hein, aujourd'hui dans le droit tel qu'il est possible. Donc oui, pourquoi pas de mettre une personnalité juridique sur l'intelligence artificielle à partir du moment où on a une véritable intelligence artificielle, donc ça, avec qui prend des décisions et qui peut rendre compte et qui, bien entendu, passe dans le cadre de contrat. Oui, ça peut être une très très bonne solution. Et le droit a fabriqué de tout temps des personnalités juridiques. Et en même temps, pourquoi une intelligence artificielle n'aurait pas de personnalité alors qu'on veut la créer pour, d'une certaine manière, les animaux, oui, ou d'autre part pour les océans ou pour les... Donc pourquoi il n'y aurait pas une personnalité juridique, dès lors qu'elle existerait, et c'est tout à fait possible qu'elle existe, elle serait responsable et elle aurait un patrimoine pour pouvoir régler les conséquences garantir ses actes et ses engagements et y répondre. Voilà.
Ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas si on détient la vérité quand on a rédigé le scénario, un petit peu comme Michel Chevalet dans les émissions vous présentait les objets du futur, mais ce qui nous a semblé évident quand on s'est interrogé, c'était de se dire il lui faut une personnalité parce qu'on n'avait pas franchement d'autres solutions et de lui donner ce patrimoine. Donc, quelque part, de notre expérience, dont on rira peut-être dans 40, dans 50 ans, en disant mais ils étaient complètement à côté de la plaque, nous, aujourd'hui, en 2018, on s'est dit c'est la solution juridique la plus évidente.
Oui, et puis de toute façon, celui qui croit pouvoir avoir la solution en disant ben, la responsabilité des produits défectueux dit n'importe quoi, puisque en fait le vrai problème de la responsabilité des produits défectueux, c'est d'apporter la preuve d'un défaut. Or cette preuve d'un défaut, vous ne pouvez pas y avoir accès puisqu'il y a une boîte noire qui vous empêche de pouvoir la démontrer. Donc on est dans une impasse. Et dans tous les autres domaines, la responsabilité de tous les autres cas de responsabilité, il faut des fautes, il faut des liens entre la faute. Enfin, on est dans des situations qui sont tout à fait bloquantes. Donc, un nouveau produit, un nouveau service, eh bien, une nouvelle solution. Et c'est ça aussi que le droit doit permettre de créer.
Aujourd'hui, en France, on recense 75 Legal Tech. Le 27 et le 28 novembre a eu lieu le Village Tech à la Cité des Sciences de Paris. Selon vous, est-ce que vous percevez les Legal Tech comme des concurrents par rapport... aux avocats, aux juges et surtout aux maisons d'édition.
Alors, en réalité, on pourrait dire que Dalloz est une legal tech depuis sa création aussi. Hein, et c'est un petit peu comme ça qu'on l'est. Enfin, Désiré Dalloz, quand il crée le recueil Dalloz avec l'ensemble des décisions qu'il recueille, qu'il met dans, d'ailleurs dans le recueil Dalloz, ne fait autre qu'une legal tech. Et on a continué. Et quand on parle aujourd'hui, on en parlait des outils de recherche. Et de l'intelligence artificielle, on est déjà en train de travailler à ces concepts. On va tout simplement offrir à nos abonnés, à nos lecteurs, à ceux qui utilisent nos services, nos produits chez Dalloz, des outils de plus en plus performants. Et on a des équipes qui s'y concentrent. Moi, ici, je représente une revue qui s'interroge. Moi, je suis juriste à la base, je ne suis pas ingénieur, non. Mais je représente cette revue, mais je sais par ailleurs qu'on est très performant. Sur le salon de la Legal Tech, justement, sur lequel les éditions Dalloz étaient présentes, alors, on les prend, on les observe et en même temps, on fait quasiment les mêmes choses qu'eux. Il y a des initiatives très intéressantes qu'on essaie de soutenir et on voit aussi tout le dynamisme puisqu'on était partenaire avec Open Law d'un prix sur l'innovation, sur des scénarios qui étaient donnés à de jeunes juristes pour voir. Enfin, on est très curieux de voir ce qui peut se passer, de voir ce qui va être imaginé et on en est partenaire. Donc, on les prend comme des concurrents, dans la mesure où certains respectent les règles, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de certaines Legal Tech, et je vous renvoie à quelques procès qui sont sur la place aujourd'hui, bon, on les observe, et tant mieux, la concurrence est une saine émulation, à la fois pour Dalloz, à la fois pour ses concurrents.
Alors pour un avocat, une Legal Tech n'est pas un concurrent. En fait, si vous voulez, c'est une aide.
Même si beaucoup l'ont perçu comme ça au départ.
Non, mais parce que, en fait, si vous voulez, c'était les règles n'étaient pas les mêmes. Les règles n'étaient pas les mêmes. Un avocat, c'est que c'est une profession, il y a une déontologie et vous avez des gens qui ont une démarche commerciale, qui lèvent des fonds et qui rentrent sur des marchés où en fait ils vendaient du lead, en fait c'est du contact, ce que nous on ne peut pas faire et ils étaient des apporteurs d'affaires ou de dossiers et ensuite ils étaient en train de créer une dépendance qui n'était pas possible. De toute manière, on voit que ça ne marche pas. C'est un système qui ne marche pas parce que et ils doivent véritablement regarder pourquoi ce type de méthode, de modèle ne marche pas. C'est parce que les avocats, ce n'est que des multiplications de niches. Or, le propre même de toutes ces plateformes qui veulent mettre en place, si vous voulez, un système, ils doivent normaliser. Donc, en fait, c'est, si vous voulez, quand on fait des actions pour de grands nombres, ça marche. Mais pour les niches, ça ne peut pas marcher.
Alors, excusez-moi, maître, quand vous dites que ce système ne fonctionne pas, précisément, vous parlez de quel système ?
Les plateformes, la solution des plateformes pour trouver des clients et être concurrent d'avocats. C'est ça, finalement, les Legal Tech. Vous avez deux types de Legal Tech. Vous avez celles qui proposent des solutions, qui permettent d'améliorer, en fait, le travail dans la recherche. Et puis, vous en avez d'autres qui vous disent qu'elles vont remplacer, qu'elles vont chercher... fédérer vos clients. Elles voudraient être le booking, si vous voulez, du droit. Ces solutions, elles ont très très bien marché, si vous voulez, pour des hôtels. Elles marchent très très bien avec Amazon. Elles ne marchent pas du tout dans le domaine juridique. Pourquoi ? Parce que le domaine juridique, il faut une personnalisation d'une relation, et puis il y a trop de niches. Donc en fait, si vous voulez, les coûts deviennent trop importants, sauf à faire du droit, de très très simple, et qui du reste, et elles sont là, elles apportent quelque chose. Les avocats n'y répondaient pas, ou très peu y répondaient. Il y a toute une partie qui n'avait pas de réponse. Voilà un peu mon point.
Alors, puis, Oui, excusez-moi. Par exemple, il y a Louis Assé-Andrieux qui est un professeur qui parle d'une standardisation des prestations. Et quand vous voyez, par exemple, que certaines legal tech vont proposer des contrats, oui, et qu'en même temps, on a également des gens qui nous disent que beaucoup de prestations d'avocats sont trop chères pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Il prend une généralité. Il n'est pas dans le marché. La standardisation. Allez voir un client et dites-lui, je te fais une standardisation. J'ai pas besoin à ce moment-là d'aller voir un professionnel. Je vais tirer. C'est très bien d'avoir des concepts, mais dans la réalité, la personne vient vous voir et vous dit, j'ai un cas qui est unique. C'est ma vie.
Dans la réalité, on sait qu'il y a des gens qui trouvent que les prestations d'avocat, par exemple, sont trop chères.
Il y a deux choses.
Moi, je trouve que celle des plombiers, je trouve que celle que toutes les autres prestations sont trop chères. Et on a un problème dans les pays latins, ça c'est une autre question, on a un problème dans les pays latins à essayer de comprendre le coût d'une prestation de la matière grise. C'est un problème général. Alors, et même un médecin, quand il a 25 euros, on trouve que c'est trop cher. Donc, on a un vrai problème. La question qui est à se poser, c'est de savoir que veut le client qui vient voir un avocat. Et il y aura deux catégories, si vous voulez. Vous avez deux catégories de clients. Ceux qui sont prêts à mettre le prix pour avoir les qualités. Moi, j'allais dire une chose. La question d'un avocat, elle est très simple. C'est pas le prix qu'on paye pour avoir un avocat. C'est le prix qu'on devrait payer pour avoir pris un avocat qui était incompétent. Et j'allais dire que c'est la même chose avec les legal tech. Les legal tech, elles fournissent des standards, des contrats à deux balles. Pourquoi pas s'il y a des personnes qui trouvent là-dessus un intérêt. Très bien. Le jour où il y aura un litige, le jour où il y aura un problème, alors à ce moment-là, on va se rendre compte que tout n'avait pas été réglé, tout n'avait pas été prévu et que les 20 euros que j'ai mis, eh bien, j'aurais mieux fait d'en mettre 200 ou 2000 et que, en fait, ça m'aurait évité pas mal d'ennuis. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc après, si vous voulez, les mercenaires du droit, il en faut. Il y en a toujours eu. Bah, là, aujourd'hui, on lève des fonds et effectivement, on marche pas dans les mêmes cours. On s'appelle start-up, mais tous les avocats qui sortent chaque année, et il y a des milliers d'avocats qui sortent, ce sont des start-up en puissance. Donc arrêtons un petit peu de parler de légal. On est tous des legal tech. En revanche, il y en a qui mettent des solutions de recherche, etc. Mais alors, ce qui se passe, et c'est ça l'autre côté, c'est que tous ceux qui viennent pour en fait prendre la place de ceux qui étaient là avant, ils appliquent après les mêmes modèles économiques et veulent nous faire les mêmes choses. Donc où est l'avantage ? Voilà un petit peu le point. C'est quelqu'un qui voit un petit peu le marché. Je vais vous dire une chose, je suis favorable au legal tech. On peut pas les ignorer parce que ça va dans le sens de les avancer. Il y a plein de propositions qui sont vraiment intéressantes, qui nous permettent. Moi j'ai la chance de dans le droit de l'informatique, donc depuis des années, on était dans des process. Mais une fois que vous avez fait le process, qu'est-ce que vous avez de plus ? Bah, il vous faut le talent, le génie, ce qui fait que bah, vous êtes quelqu'un que l'on va vouloir consulter parce que vous allez rassurer et créer confiance.
L'humanité de l'avocat.
Ce qui est très bien, c'est que dans la rencontre entre l'avocat et son client, il y a en fait un protocole d'honneur qui se met entre ce mélange de la conscience et ce mélange de la confiance. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Pour revenir justement sur ce sentiment qu'est le commun des mortels de se dire on n'a pas besoin d'un avocat, on trouve tout en ligne aujourd'hui, il suffit d'aller sur un moteur de recherche, on va trouver les prestations et ça va être facturé trop cher. Il faut peut-être juste simplement se rendre compte qu'il y a une différence entre ce qui va être un contrat simple, un petit contrat de location que les gens vont faire pour louer leur petit meublé de leur côté, qui ne va pas avoir une sophistication juridique très importante.
Il y a encore des modèles qui existent pour ça.
Voilà. Et encore que tant qu'il n'y a pas de litige ou de difficulté. Et il y a un autre type de contrat cette fois-ci où là, tous les outils de l'intelligence artificielle, tous les outils qu'on mettra en place ne feront qu'accompagner. Parce qu'à chaque fois, vous aurez besoin du juriste qui lui va faire de la dentelle. Je l'ai vu parce que justement quand j'ai rencontré une des legal tech qui faisait des contrats robotisés soi-disant, en réalité, avant de mettre en place leur contrat, il y a 10 à 12 mois d'échange, si ce n'est plus, entre cette legal tech et les juristes de cette société. Donc en réalité, parfois, il y a une certaine perte de temps pour automatiser derrière, aller sur des langages que nous, dans les maisons d'édition, on utilise, qui va être le langage HTML, pour simplement automatiser. Donc, tout ça va dépendre du degré d'affinement, on en parlait, mais c'est vrai aussi pour la justice prédictive. Tout ça sont des outils d'indication, et ce qui compte au final dans tout cela, c'est l'humain. C'est le retour, que l'humain soit avocat, que l'humain soit magistrat ou que l'humain soit juriste dans sa direction juridique, c'est lui qui, au final, par une magie que ni vous ni moi ne sommes capables de définir, arrivera à donner une des réponses les plus appropriées grâce à son expérience, parce qu'on le voit, et aussi bien Maître As que moi, finalement, en vieillissant, on aurait l'impression de se bonifier, et c'est pas complètement faux. Donc, et parce que l'expérience vient vous enrichir à chaque fois. Et ça, une intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi elle s'enrichit dans son expérience. On ne sait pas si, après 10 ans, 20 ans d'usage de cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va se bonifier ou pas. Ce qui ne veut pas dire que quand on était jeune, on n'avait pas... Enfin, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais nous, on voit aujourd'hui apparaître, quand on fait une revue, quand Maître As plaide remarquablement, il y a tout cet acquis qui arrive. Et donc l'humain est toujours au centre du débat, il faut le maintenir, et ça c'est votre rôle, vous à la jeunesse, de prendre ce rôle là et de dire certes les outils arrivent demain, mais nous on tient à avoir notre mot à dire, qu'on soit juriste ou tout simplement citoyen.
Vous parlez de demain, ça me permet de faire une transition. J'ai trouvé une prédiction intéressante de Richard Susskind qui date de 2010, parue dans Oxford Press, qui dit: prédire que les avocats qui ne sont pas enclins à changer leur pratique de travail et à étendre l'éventail de leurs services devront mener dans la prochaine décennie une âpre lutte pour leur survie.
Oui, qu'en pensez-vous, Maître ? Mais Susskind est vraiment un gourou dans le domaine du droit. Il est visionnaire, il a déjà tout, il a vu beaucoup de choses. Et effectivement, mais j'allais dire, les avocats aujourd'hui, et surtout ceux qui arrivent sur le marché, ont déjà intégré en fait l'apport de tout ce que peuvent faire les nouvelles technologies, les legal tech.
Deux remarques. Pour terminer sur les étudiants et CDU, il faut savoir qu'il y a 56 000, entre 50 et 60 000 postes de juristes du numérique qui vont être bientôt arrivés avec le RGPD et les DPO, mais au-delà dans les directions juridiques. Donc tous ceux qui sortent des DU actuellement que j'ai cités, en réalité, trouvent des emplois directement. Donc cette sensibilisation, elle est importante. Ensuite, ce que je dirais par rapport à ce qu'indique Maître As, on nous donne des solutions, on nous les propose, mais là, attention, moi je reviens à l'esprit critique. C'est les solutions que vous donne l'algorithme. Et c'est en ça que je mets aussi en garde les étudiants ou nos lecteurs tous les mois dans la revue. Un algorithme vous propose ce pour quoi il a été programmé. Si je veux, par exemple, que dans une société ou dans un site, objet social, enfin le mot objet social, l'occurrence objet social remonte, je vais la pondérer. Tout simplement, je vais faire plus de 100 000 et la solution, elle vous sera dictée. Et si vous n'avez pas le recul de savoir que c'est simplement l'algorithme qui vous propose et que la recherche d'un autre côté doit être faite par un autre biais que Internet, il faut reprendre ça à l'esprit. Il faut savoir que les dirigeants des GAFA interdisent à leurs enfants l'accès à l'informatique jusqu'à l'âge de 14 ans. Parce qu'avant, ils les font chercher classiquement dans des livres, avec des méthodes de recherche d'indexation, d'éléments critiques. L'esprit critique doit continuer à vivre et doit, pour vos générations, surtout venir. Tout ne vient pas de votre smartphone que vous avez sur vous en permanence. Et regardez l'actualité, on vous propose celle que l'algorithme vous propose. Mais si vous, aujourd'hui, vous prenez un peu de recul, enfin, si on prend l'actualité aujourd'hui, on a l'impression que seuls les gilets jaunes existent. Là, pour le coup, moi, je ne vais pas être politiquement correct, mais quels sont les drames dont on a entendu parler autour dans le monde, dans la géostratégie, dans la géopolitique? En revanche, il y a un article intéressant qui est tombé ce matin, notamment sur Le Monde, qui est de dire que derrière tout ce qui se passe, derrière les gilets jaunes, on a des États, et pour ne pas les citer, des États qui viennent de l'Est, qui sont en train de créer des comptes en ligne pour, cette fois-ci, s'intéresser à ce qui se passe en France. Parce que déstabiliser la France de manière géopolitique, ça a un intérêt pour certains dirigeants. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le prouver, mais il y a des services qui travaillent là-dessus et qui l'attestent. Donc tout ça, l'esprit critique, il faut que vous l'ayez. C'est ce qui a fait finalement l'esprit français et il faut continuer à le maintenir. Et ça sera la solution face à l'intelligence artificielle.
L'esprit critique que vous défendez, j'imagine, à la faculté de Reims dans votre formation.
Tel qu'on me l'a enseigné, je la défends toujours.
Pour les auditeurs qui sont intéressés, j'imagine qu'ils peuvent retrouver les enseignements et les informations sur un site internet.
Sur le site de la faculté de droit de Reims, sur le DU Juriste 2.0.
Très bien. Et pour ceux qui sont intéressés également par l'école 42, vous pouvez contacter Amric Trudel et l'association Intelligence Artificielle 42.
Exactement.
Et puis Maître As, vous prenez des stagiaires, je ne sais pas.
Sans... Oui, bien sûr, on recherche toujours des talents, et vous savez, si vous avez du talent, c'est déjà un être persuadé. Et puis également, l'association Les Juristes Notes fait appel à toutes les compétences. Je vous rappelle qu'on a organisé le procès du transhumanisme, cette année le procès de l'intelligence artificielle, et l'année prochaine, et on est en train de préparer le nouveau projet, mais je pense qu'il y aura, en tout cas du numérique, c'est sûr.
Ça, c'est certain. C'est clair. Et ça sera tout aussi passionnant et si ce n'est encore plus proche de ce qu'on a pu imaginer. Là, on ne sera pas en 2040, je pense qu'on sera beaucoup plus proche.
Beaucoup plus proche et on n'est pas loin de Black Mirror, là.
Très bien. Et on invite également les étudiants et les auditeurs à retrouver la revue d'Allos IPIT que vous pouvez retrouver, j'imagine, avec beaucoup d'éléments sur Internet.
Elle est en ligne, elle est disponible dans les universités, à Sciences Po aussi, j'imagine. Donc voilà, vous pouvez la consulter et... Sous les conseils de Maître As, quand on a créé cette revue, c'est d'en faire une revue qui ait une vraie identité visuelle. Et là, je pense qu'on y travaille grâce à notre directeur artistique.
C'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Je rappelle que nous étions en compagnie de Stéphane Prévost, rédacteur en chef du service propriété intellectuelle droit du numérique chez Dalloz et responsable du diplôme d'université 2.0 de la faculté de Reims. Merci à vous. Merci également à Maître Gérard Haas.
Merci à vous.
Avocat au barreau de Paris.
Merci, à bientôt.
Merci également à Amric Trudel qui est venu depuis l'école 42. Vous pouvez retrouver l'association 42 Intelligence Artificielle. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Sarah. Merci à Marianne qui s'est occupée de la technique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt.
Merci.